7h, 9h, la matinale de Nova. Avec Marie Bonisseau et Queenie Tassel, pour que tu rêves encore, 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 encore. Nova.
J'étais Superman. Combi bleu avec ma cape. Du coup, je volais comme Superman, je mettais mon pont en avant comme ça. Et ça me faisait hyper peur au début, parce que c'était pas du tout naturel. Et c'était une sensation de malade. Mais vraiment, je ressentais la sensation de voler, quoi.
Nova ?
Je me suis réveillé, je me suis dit, c'est ouf, en fait, que dans un rêve, on puisse avoir une nouvelle sensation.
Pour que tu rêves encore.
Mais oui, prenez de la hauteur, volez, mes petits Superman. Tout est permis ce matin, surtout, surtout de porter des slips par-dessus des collants. Salut, c'est Queenie, deuxième jour sans Marie qu'on embrasse de loin. Et du coup, c'est moi qui tiens la baraque. On est ensemble jusqu'à 9h et on souhaite une bonne fête aux Vivian et aux Viviane. J'ai lu sur un site web très riche en infos floues que les Vivian sont, je cite, « de charmants compagnons, amoureux de la vie, ils sont incapables d'égoïsme ». Alors aujourd'hui, prenez-en bonne note et trouvez-vous un pote qui s'appelle Vivian, il le restera toute votre vie. Ou bien renommez votre chien Vivian, puisque visiblement, c'est des bons compagnons. Bon, il est naze ce site. En tout cas, on est bien, vous êtes sous votre douche, dans votre voiture ou encore au lit. Quoi qu'il en soit, on a de la bête de musique pour vous foutre un moral d'acier et que vous puissiez mettre des patates dans la gueule de ce mardi 10 mars pour célébrer l'anniversaire du très controversé, mais très increvable, Chuck Norris.
Nova.
Mais d'abord, un morceau que je vous ai choisi en fonction de l'actualité. Et aujourd'hui, c'est les 100 ans de la naissance de Boris Vian. Boris Vian, sosie d'Emmanuel Macron, artiste complet, chanteur, auteur, amateur de jazz et de gros stuff du début du XXe siècle dans des cabarets, l'équivalent pour nous, en gros, d'after dans un parking. Boris Vian, il était aussi pataphysicien. Vous savez pas ce que c'est ? Il vous explique.
On peut dire que la pataphysique est à la métaphysique, ce que la métaphysique est à la physique. Un des principes fondamentaux de la pataphysique est d'ailleurs celui de l'équivalence des contraires. C'est peut-être ce qui vous explique ce refus que nous manifestons de ce qui est sérieux et de ce qui ne l'est pas, puisque que pour nous, c'est exactement la même chose.
On n'en a rien compris, désolé. C'est un extrait d'une émission de radio qu'il a fait en 59. C'est normal que vous ayez rien compris. La pataphysique, qu'on doit écrire avec un apostrophe devant le mot, c'est une science des solutions imaginaires. Une science absurde, créée par l'auteur français Alfred Jarry à la fin du 19e siècle, dans son bouquin « Gestes et opinions du docteur Faustrolle, pataphysicien ». Dans ce « entre guillemets collège de pataphysique », il y avait des auteurs comme Boris Vian, Alfred Jarry ou bien Ionesco, tous beaucoup trop fans de jeux de mots. Et cette science absurde, elle est restée un peu confidentielle. Et du coup, plus tard, dans les années 60, les gens qui en entendaient parler, c'était un peu les artignoles, les étudiants intello. C'est pas moi qui le dis, c'est Philip Norman, le biographe de Paul McCartney, parce qu'il faut savoir que les Beatles, ils ont chanté la pataphysique dans le morceau Maxwell's Silver Hammer. Studied pataphysical science in the home. Voilà, donc dans cet extrait, Paul McCartney, on l'a entendu, pataphysical, il parle de Joan, une étudiante en pataphysique qui sort avec Maxwell. Lui, il est étudiant en médecine et il s'avère que Maxwell, il va péter un plomb et tuer tout le monde à coups de marteau en argent. Ce qui explique le titre du morceau qui est donc Maxwell's Silver Hammer. C'est absurde et cru, ça ressemble un peu à du Boris Vian, à de la pataphysique. Et ce morceau, il est présent sur l'album White, une période un peu compliquée pour le groupe, pour les Beatles, puisque c'est le moment où Lennon et Yoko Ono sont très fusionnels et ça casse les couilles de tout le monde. Cet album, c'est aussi le retour à une musicalité plus rock'n'roll que leurs albums précédents qui étaient un peu plus psychédéliques. Et leurs textes sont moins introspectifs, ils racontent plus un quotidien. Bon, ce quotidien-là, il est absurde, mais on le dédicace à Boris Vian ce matin et à tous les pataphysiciens. Maxwell Edison, majoring in medicine, calls her on the phone. Can I take you out to the pictures, Joan? But as she's getting ready to go, a knock comes on the door. Bang, bang, Maxwell's silver hammer came down upon her head. Sure that she was dead.
wishing to avoid an unpleasant scene. She tells Max to stay when the glass has gone away, so he waits behind. Writing 50 times, I must not be so But when she turns her back on the boy.
Nova. Allez, on continue en musique avec Ezequiel Paillès. Et dans quelques instants, on prend le Marie Transport justement avec Ezequiel Paillès. C'est fou, hein? Ezequiel Paillès, vous vous réveillez avec nous, il est 8h19. Ezequiel Paillès qui est dans le Marie Transport cette semaine. Marie Transport, notre moyen de locomotion qui accompagne les personnalités au travail. Hier, Ezequiel Paillès lui a raconté qu'il était toujours nostalgique. Aujourd'hui, on voit où on en est en termes d'émotion.
Vous allez où ?
Service d'accompagnement de personnalités au travail.
Je peux m'asseoir à côté de vous ?
Marie Transport, épisode 2.
Est-ce que tu peux me tenir deux secondes ça parce que je peux être un boulon.
Est-ce que tu veux que je porte ton sac ?
Tu peux parler dans la micro.
Alors bon bah voilà, donc là on est dans un passage piéton où il n'y a pas de voiture mais on traverse pas quand même parce que.
C'est bon. Donc toujours un peu de mélancolie à la racine de tes textes.
Même si j'essaye de parfois de pas être trop mélancolique, en fait ça revient au grand galop. En même temps, je passe mon temps à plutôt rigoler dans la vie, à m'amuser, tout ça. Mais en même temps, les choses qui me donnent de l'émotion sont souvent des choses qui sont... C'est pas triste, tu vois, c'est...
Mélancolique. Ça me fait penser au mot « oublier ». Ouais. Parce que t'as un titre qui s'appelle « Sans oubli ».
Ouais.
Sans l'oublier.
Ouais.
Sans oublier, pardon. Je trouve que dans l'oubli, il y a de la tristesse, mais il y a pas mal de douceur aussi. L'oubli, c'est un truc qui est... enseveli au fur et à mesure. C'est...
Oui, et puis qui peut ressurgir en tous les cas à des moments où on ne s'attend pas.
Ouais. Il pleut, genre vraiment fort.
Bien, moi, je n'ai même pas mis ma capuche parce que...
Par solidarité, je le sais.
Oui, évidemment. Et puis, il est hors de question que je me laisse impressionner par cette pluie.
Et donc, on parlait de ce titre... C'est un poème, en fait, qui existe avant Ezequiel Paillès.
C'est un poème d'une poète qui s'appelle Marceline Desbordes-Valmore et dont j'ai découvert la poésie. Moi, je ne connaissais pas, même avant de commencer le disque, et on m'a offert le livre. Et puis, en fait, j'ai lu. Et moi, quand je lis de la poésie, souvent, je suis... attiré par le rythme, la musicalité finalement de la poésie. Et puis dans ce recueil-là, je trouvais que vraiment il y avait des choses qui me donnaient envie d'en faire des chansons. Quoi.
Et cette poète, on la connaît pas trop alors qu'elle a influencé pas mal d'autres poètes comme Baudelaire, si j'ai bien compris.
Ouais, c'est ce qui est... Je ralentis un peu.
Ouais. Ouais, il y a un petit problème de souffle chez votre interlocutrice.
Non, mais écoute... Oui, cette poète, on la connaît pas trop comme...
Comme pas mal de femmes créatrices.
Voilà, c'est là. Ouais. Et d'ailleurs, je relisais des trucs où elle disait que... en tant que femme, elle savait à l'époque où elle écrivait qu'elle ne devait pas écrire... Et que elle disait, mais je le fais pourtant. En fait, ce qui est assez amusant, c'est difficile que ce soit autrement, mais le regard qu'on a porté sur elle à l'époque où elle écrivait était essentiellement des hommes qui, effectivement, ont dit,
c'est vachement bien.
Donc, en fait, c'était un peu une boucle.
Toi, t'étais pas dans un acte militant, simplement, il se trouve que tu trouvais ça vachement bien.
Ouais, voilà, je trouvais ça bien.
Et qu'est-ce qui te l'a offert, ce bouquin ? C'est que la personne, elle connaît ?
Femme, qui est plutôt.
Engagé.
Voilà.
Marie Transport.
La suite au prochain épisode. Demain. Comme une série, quoi.
La chronique.
Oh la planche. Oh la planche.
La chronique sport.
Salut Barnabé.
Salut Queenie.
Alors cette semaine, l'actu sportif, c'est évidemment le fameux match retour du PSG demain soir contre le Borussia Dortmund en 8e de finale de Ligue des Champions.
Un match que les supporters parisiens attendent fiévreusement et même un peu trop visiblement, puisqu'on a donc appris hier que le match se jouerait à huis clos, risque de coronavirus oblige. Alors si cette décision est évidemment très défavorable aux Parisiens après la défaite du match aller en Allemagne, elle apparaît surtout comme un énième symbole de l'incroyable destinée du PSG dans cette compétition. Comme chaque année, le club parisien s'annonçait comme l'un des favoris de la compétition. Et comme chaque année, il est donc au-devant d'une nouvelle énorme déconvenue. C'est simple, depuis que le Qatar a pris les rênes du club il y a 9 ans, le PSG n'a jamais franchi le stade des quarts de finale.
Non.
Pire, ça fait 3 saisons de suite qu'il est éliminé dès les 8e, à chaque fois avec des scénarios complètement invraisemblables. En 2017, c'est la fameuse remontada face au Barça, une sorte d'incongruité footballistique. Avec 3 buts encaissés en 6 minutes à la toute fin du match. Et puis l'année dernière, il y a l'impensable fiasco face à Manchester United avec une décision arbitrable rocambolesque à la dernière minute. À chaque fois, le PSG défie toutes les statistiques en se retrouvant éliminé alors même qu'il est donné qualifié à 100% après le match aller. Si bien qu'au fil du temps et de ses impossibles échecs, l'ensemble de la presse a fini par s'y résoudre. Parler de poisse ou de malchance ne suffit plus. On utilise désormais un terme bien précis pour analyser le phénomène. Écoutez donc ce journaliste du Parisien.
C'est une malédiction de plus dans la vie du Paris Saint-Germain. La légende noire de ce club s'est encore écrite ce mercredi soir au Parc des Princes. Il y a comme une fragilité mentale dans cette équipe, comme une espèce de permanence chronique à la malédiction.
La malédiction, ouais, c'est une excuse un peu facile, non ?
C'est en tout cas un grand classique de la presse sportive, un terme qu'elle utilise abondamment, certes à la fois comme une bouée de sauvetage pour expliquer l'inexplicable, comme dans le cas du PSG ici, mais aussi parfois comme une façon de construire des légendes populaires. C'est ce que raconte très bien Mehdi Ligné dans un livre consacré aux grandes malédictions du sport et publié chez Amphora. Il écrit « Il n'y a pas de malédiction sans médias. Ces derniers sont les relais indispensables à l'existence de ces mythes modernes. Le plus souvent même, ils en sont les géniteurs.
Ok, et il y en a tant que ça des malédictions sportives ?
Bah, tous les sports regorgent de ce genre de coups du sort répétés qui donnent l'impression d'un sortilège. L'auteur, de son côté, s'est concentré sur 13 histoires particulières, dont certaines s'avèrent assez déconcertantes, il faut bien le reconnaître, comme celle dite des 7 chats noirs du Racing Avellaneda.
Qu'est-ce que c'est ?
Une malédiction qui frappe ce club de foot de Buenos Aires à la fin de l'année 1967. À l'époque, l'équipe vient de remporter son 3e championnat d'Argentine d'affilée, mais également la Coupe d'Amérique du Sud et même la Coupe intercontinentale. En bref, c'est sûrement l'une des meilleures équipes du monde à ce moment-là. Mm-hmm. Et puis, plus rien. Le désert. Le club enchaîne les échecs. Il est successivement rétrogradé en 2e division, puis déclaré au bord de la faillite. On fait venir des prêtres exorcistes. On organise des processions. On accroche des crucifix dans les vestiaires. Mais rien n'y fait. Jusqu'à ce qu'on découvre, au moment de refaire le terrain à la fin des années 90, le squelette de 7 chats enterrés sous la pelouse. Depuis, la légende raconte que ce sont des supporters adverses qui auraient fait cela pour se venger du succès du rival. Mais là, Queenie, où ça devient très troublant, c'est que dès l'année suivante, une fois débarrassé de ses porte-malheurs, le Racing Avellaneda redevient champion d'Argentine.
Non, c'est pas vrai. Du coup, ça peut être une solution pour le PSG. On va déterrer tous les chats de
C'est ça,
de
sauf
France.
Que dans le cas du PSG, on sait pas vraiment si les chats noirs sont cachés sous le terrain ou s'ils sont directement dessus.
Oh,
une chose est sûre, en tout cas, demain soir, ils seront pas dans les tribunes.
Oh là là. Bon, bah on est en stress. Merci beaucoup, Barnabé. Salut Lionel.
Bonjour.
Vous avez la pêche ?
Ah, totalement.
Ah bah ça s'entend, vous nous appelez d'où ?
Je vous appelle de Montpellier.
Ok, bon bah très bien, super, on embrasse tout le monde de Montpellier. Est-ce que vous êtes chaud au quiz ?
On va essayer.
Vous entraînez parfois le matin ?
Le matin je vous écoute tous les jours, donc oui, je m'entends pas mal. Ouais.
Vous faites combien d'habitude à peu près ?
Ouf, je compte pas parce qu'en fait ça dépend,
dépend
qu'il y a en réponse, des fois c'est 8, des fois c'est 10.
Bon, là, le record, il est à 13. Il va falloir faire 13 ou plus. C'est possible. Et je vais vous dire le début des mots. Et puis, vous me dites si ça vous va. C'est plat. Comme plat. Plastique, plastoc.
D'accord.
Luc Plamondon, c'est le parolier de Starmania. Ça vous va, plat ?
Ça va.
Vous êtes prêt, Lionel ?
Allez.
C'est parti. C'est un philosophe mort.
Ouf. Platon.
C'est au-dessus du sol.
Au-dessus du
sol.
Sol, le plafond.
C'est sous le vinyle.
Sous le vinyle, la patine.
C'est là où tu fous tes vêtements et tes secrets.
Le placard.
C'est pas pentu.
C'est pas pentu, c'est plat.
C'est un plat pour les tartes.
Quoi ?
Un plat pour les tartes.
Un plat sur les parcs ?
Un plat pour les tartes.
Non, je passe.
C'est Neptune, Vénus ou la Terre si elle survit ?
Je passe.
C'est ça plane pour lui, na 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 na, ça plane pour moi.
Je sais pas.
C'est un arbre. Oh, Plastique Bertrand. Vous l'aviez pas ? Ça plane pour moi. Vous entendiez rien ?
Ben en fait, je vous entends du moins de ce que je comprends, j'entends pas très très bien. Non.
J'articule pas bien. Plat tarte. Plat tarte, c'était.
Vous avez fait 5 points.
Bah c'est pas mal, Lionel.
Voilà.
On va mettre ça sur le compte de la mauvaise connexion.
Ouais.
Bon, bah, bonne journée. Vous voulez passer une petite dédicace ? On dédie à qui ces 5 points ?
Je dédicace tout à tous les Montpelliérains et tous les surfeurs qui surfent sur Palavas et Carnon.
Qui surfent sur Montpellier ?
Ouais.
Sur la ville ?
Oui, sur Palavas, Carnon.
Trop bien. Et bah, bonne journée, Lionel. Et on embrasse tous les surfeurs de Carnon et de Palavas.
Nova, pour que tu rêves encore.